Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Audience générale ce mercredi, place Saint-Pierre. Dans sa catéchèse, le pape François est revenu sur trois paraboles tirées de l'évangile selon saint Matthieu et a invité les jeunes à ne pas avoir peur de rêver grand. Toujours aucune nouvelle des deux évêques orthodoxes enlevés lundi en Syrie alors qu'ils menaient une opération humanitaire. Le pape François, lors de l'audience générale, a demandé leur libération et que cesse le bain de sang en Syrie. Après la Thaïlande en 2009, c'est au Liban qu'aura lieu le prochain congrès mondial de Signis, association catholique mondiale pour la communication, reconnue par le Saint-Siège. Nous en parlerons dans quelques instants. Et alors que la loi sur le mariage homosexuel a été adoptée en France, nous donnerons la parole à certains de ses opposants, les veilleurs. Ils ont mis au cœur de leur mouvement la prière, l'art et la culture. Bienvenue dans ce magazine. C'est sous un soleil printanier romain et devant une foule nombreuse et enthousiaste venue écouter sa catéchèse que le pape François a présidé sa traditionnelle audience générale hebdomadaire. Ce mercredi, le pape a débuté sa catéchèse en revenant sur le credo au cours duquel les fidèles professent que Jésus viendra de nouveau dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le sens de l'existence de l'homme est résumé dans cette phrase, a rappelé le Saint-Père. À l'issue de sa catéchèse, il a adressé quelques mots aux pèlerins et fidèles francophones en italien, mais qui ont été traduits. Écoutons-les.
Nous confessons dans le credo que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur trois passages de l'évangile de Matthieu pour nous aider à entrer dans ce mystère. La parabole des dix vierges, celle des talents et celle du jugement dernier. La parabole des vierges qui attendent l'époux nous renvoie au temps situé entre la première et la dernière venue de Jésus, avec miséricorde et patience. Le Seigneur nous donne ce temps pour que nous tenions allumées les lampes de la foi, de l'espérance et de la charité, et ayons le cœur ouvert au bien, à la beauté et à la vérité. La parabole des talents nous fait réfléchir sur l'usage des dons que nous recevons de Dieu, l'attente du retour du Seigneur et le temps de la mise en valeur de ces dons pour Dieu, pour l'Église et pour les autres. La parabole sur le jugement dernier décrit la seconde venue du Seigneur en utilisant l'image du berger qui sépare les brebis des chèvres. Les personnes qui ont aidé leur prochain de celles qui ne l'ont pas fait, nous serons donc jugés sur notre amour pour Dieu, présent dans le prochain. Chers frères et sœurs, le fait de penser au jugement dernier devrait nous stimuler à mieux vivre notre quotidien, en apprenant chaque jour à reconnaître Dieu présent dans les pauvres et les petits, en travaillant pour le bien et en étant vigilant dans la prière et dans l'amour.
Et puis ce mercredi également, tweet papal, « Maintenons vive notre foi par la prière et les sacrements, soyons vigilants pour ne pas oublier Dieu ». L'Église n'est pas une organisation bureaucratique ni une entreprise seulement humaine. Un rappel fait mercredi matin par le pape François lors de la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican en présence d'employés de l'Institut pour les œuvres de religion, LIOR. Durant l'homélie, le pape s'est adressé directement à eux. Quand l'Église veut se vanter de sa grandeur et créer des organismes, des bureaux et devient un peu bureaucratique, elle perd sa substance principale. Les bureaux sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point, il rappelait, car l'Église n'est pas une ONG, mais une histoire d'amour, a ajouté le pape. Et donc le IOR et les autres organismes sont nécessaires pour soutenir cette histoire d'amour. Mais quand l'organisation prend la première place, l'amour vient à manquer et l'Église, malheureusement, devient une ONG. Et ce n'est pas là le bon chemin, a conclu le pape François.
Thank you.
Une nouvelle fois ce mercredi, le pape a souhaité la libération des deux évêques orthodoxes enlevés près d'Alep en Syrie et prié pour que soit trouvée une solution politique à la crise syrienne. Lors de l'audience générale sur la place Saint-Pierre, le pape a évoqué le sort des deux métropolites qui fait l'objet d'informations contradictoires. L'hypothèse de leur libération avait circulé le 22 avril dernier avant d'être démentie par les autorités orthodoxes. De façon improvisée, le pape François a appelé les fidèles à se rappeler dans leurs prières des deux évêques afin qu'ils retrouvent bientôt leur communauté. Évoquant les nombreuses souffrances du peuple syrien, le pape a demandé également que cessent les fusions de sang et que soit trouvée au plus vite une solution politique à la crise qui met le pays à feu et à sang depuis 2 ans, comme il l'avait déjà exprimé dans son message de Pâques le 31 mars dernier. Un peu plus tôt dans la matinée, les patriarcats syriaques orthodoxes d'Antioche et de tout l'Orient et grecs orthodoxes d'Antioche et de tout l'Orient ont publié un communiqué dans lequel ils invitent les ravisseurs à respecter la vie de nos confrères enlevés et à cesser toutes les actions qui contribuent à semer les divisions communautaires et confessionnelles entre les enfants de la même patrie. Mais les deux patriarches, Mgr Ignace Zaka Ier Iwas et Jean X, vont plus loin, rappelant quelques points essentiels de ce conflit syrien si complexe. Xavier Sartre.
Les idées sont claires et énoncées avec force. Tout d'abord, les chrétiens sont dans cette région une partie intégrante du tissu des peuples qui la constituent. Ces mêmes chrétiens déplorent la violence qui traverse leur pays qui ne fait que creuser la distance entre les citoyens de la même patrie. Mais au-delà de ces deux rappels, les deux patriarches lancent un appel fort à leur corps religionnaire, à rester patient, à s'accrocher aux fondamentaux de leur foi, à se remettre à Dieu dont la force réside même aussi dans leur faiblesse. Un appel à ne pas abandonner cette terre, comme l'avait dit lors de sa visite au Liban le pape Benoît XVI. La défense de cette terre réside d'ailleurs dans le fait d'œuvrer pour qu'elle soit une terre d'amour et de coexistence. Mais les patriarches ne s'adressent pas qu'aux leurs, car le conflit syrien dépasse de loin les seules frontières du pays. C'est donc au monde entier qu'ils parlent, pour qu'ils mettent fin au drame qui se déroule en Syrie, mais aussi aux églises chrétiennes, pour qu'elles prennent une position ferme devant les événements en cours. Les chrétiens de Syrie ne veulent pas être seuls face à la tragédie en cours. Ils ne veulent surtout pas être seuls dans leur propre pays. C'est pourquoi les patriarches implore toutes les communautés musulmanes à se joindre à eux pour refuser la commercialisation des individus, autrement dit le refus des enlèvements contre rançon, le refus des boucliers humains lors des combats. C'est donc un appel à l'unité qu'il lance au-delà des religions et des communautés, conscient que tous les Syriens, par-delà leurs différences, appartiennent à la même nation.
Restons au Moyen-Orient, où après la Thaïlande en 2009, c'est au Liban qu'aura lieu le prochain congrès mondial de CINIS, Association catholique mondiale pour la communication, reconnue par le Saint-Siège. Il se déroulera du 20 au 23 octobre à Beyrouth sur le thème « Médias pour une culture de paix ». Créer des images avec la nouvelle génération. Le Moyen-Orient évoque des images de guerre, de soulèvements et de violences interconfessionnelles. Pourtant, de jeunes esprits créatifs s'efforcent de trouver des vecteurs de dialogue et de réconciliation. Le choix de Beyrouth est un témoignage de solidarité avec ces nouvelles voix qui s'élèvent et plus généralement avec les chrétiens de la région. Marie-Thérèse Crédy, directrice des programmes de télé-lumière et des télévisions Noursat à Beyrouth, collabore à la préparation de ce congrès. Elle nous dit pourquoi les catholiques libanais y voient une occasion historique. Un entretien réalisé par Romilda Ferrotto.
Pour nous, c'est un congrès qui est un signe de solidarité, de support pour les chrétiens du Liban et de tout le Moyen-Orient. C'est ce qui est le plus important, de savoir qu'on fait partie de cette grande communauté et que l'Église est présente à côté de ses enfants. Donc, c'est une décision historique parce qu'en dépit de tous les défis dans la région, CINIS et l'Église ont décidé d'approuver ce congrès. C'est très important pour nous d'avoir ce congrès, surtout pour les jeunes du Liban et du Moyen-Orient.
Et surtout le thème culture de paix.
Oui, médias pour une culture de paix, c'est un thème très important parce qu'on a très besoin ces jours-ci de cette culture. Parce que les médias au Moyen-Orient, vous avez vu comment ils ont joué un rôle, ils peuvent jouer un rôle négatif pour détruire, pour traîner des violences. Et en même temps, elles peuvent avoir un rôle très constructif. Donc on vise à ce rôle constructif.
Il va de soi que dans le contexte actuel du Moyen-Orient, vous avez besoin plus que jamais d'un tel soutien.
Bien sûr, on a besoin de ce soutien, toujours parce qu'on est toujours dans une région pleine de tensions. Et surtout, les jeunes peuvent être entraînés dans des conflits sans avoir choisi ou sans être bien conscients de leurs décisions. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de cette présence à côté de nous.
Malgré la proximité du conflit syrien, est-ce que vous avez le sentiment que le Liban est encore aujourd'hui un modèle à suivre et qui peut servir d'exemple et qu'il faut l'encourager ?
Bien sûr, parce que personnellement, j'ai vécu cette expérience. Je suis née dans la guerre et j'ai vécu tous ces conflits. Donc, j'ai vu comment les Libanais se sont approchés, se sont réconciliés, ont appris à s'éloigner des conflits, même en dépit de toutes les tensions qui ne sont pas étrangères au pays. Donc, je crois très fortement au dialogue et à toute la paix qu'on est en train de bâtir, surtout avec les futures générations.
Est-ce que vous avez peur de la contagion syrienne ?
On a des tensions, mais je crois qu'on espère pour le mieux que non. Les tensions se seront limitées par des petits incidents jusqu'à présent, et donc on espère pour le mieux toujours.
Direction l'Europe maintenant, où les évêques belges ont dénoncé l'incident dont Mgr André-Joseph Léonard a été victime dans un auditoire de l'Université libre de Bruxelles. Le 23 avril, à l'occasion d'une conférence débat sur la liberté d'expression religieuse, l'archevêque de Malines-Bruxelles avait été aspergé d'eau durant la soirée par des militantes seins nus du groupe Femen. 4 femmes ont débarqué dans la salle en brandissant des pancartes ou avec des inscriptions sur leur poitrine dénudée, affirmant notamment « Léonard, y en a marre » ou « Stop, homophobia ». Elles ont aspergé le prélat à l'aide de flacons en forme de Vierge Marie. Mgr Léonard a gardé son calme, préférant prier en attendant que le calme revienne. Mgr Léonard et Guy Archer, professeur honoraire à l'ULB, donnaient une conférence sur le thème « Blasphème, offense ou liberté de s'exprimer ». L'attitude de quelques personnes ce 23 avril manque à cet égard totalement de crédibilité et de sens civique et est en totale contradiction avec le thème du débat et avec la manière dont l'Église catholique entend dialoguer dans un contexte pluraliste. C'est ce qu'ont indiqué les évêques dans un communiqué diffusé le 24 avril. Ils rappellent qu'un débat démocratique sur des questions de société n'est possible que si on permet à chacun d'exposer ses idées dans le respect mutuel et la liberté d'expression. Le rendez-vous est devenu habituel, presque incontournable. Depuis plus d'une semaine maintenant, des centaines de jeunes opposants au mariage pour tous se retrouvent chaque soir sur la pelouse des Invalides à Paris. Assis calmement, ces veilleurs ont fait le choix de la non-violence et de la résistance pacifique. Le silence observé n'est pas celui de la passivité ou du découragement, mais celui de la détermination. Ici, on lutte avec l'esprit, on lit Aragon, Bernanos, Hugo et d'autres auteurs de tout siècle et de toute sensibilité. L'art, la culture et la littérature, voici leurs armes pour obtenir un réveil des consciences. Ce mouvement spontané, en marge de la manif pour tous, fait des émules en province, Lyon, Toulouse, Toulon, Nantes. Cette révolution tranquille fait son chemin et le vote définitif de la loi sur le mariage pour tous n'y changera rien. Regard croisé de Marie, jeune étudiante veilleuse, et de l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles. Leurs témoignages sont recueillis par Manuela Afidji.
Alors l'esprit, c'est vraiment de montrer notre résistance et notre détermination face à ce projet de loi pour le mariage pour tous, mais pas seulement, face à tous les projets de loi que notre gouvernement veut faire passer et qui contribuent à détruire les fondements de la société, à détruire la famille, à détruire tout ce qui est fondé sur la complémentarité des sexes. Et c'est contre cette idéologie, parce que c'est vraiment une idéologie, qu'on veut résister, mais par la non-violence, par la force de l'esprit, par la culture, par une sorte de force intérieure que rien ne peut nous enlever.
En tant que prêtre, je suis extrêmement ému et touché de voir la générosité de ces jeunes, la conviction de ces jeunes, qui sont prêts à s'engager, à prendre du temps pour défendre ce qu'il y a de plus beau, non pas des intérêts particuliers, non pas un salaire ou un emploi, mais l'idée même de la famille, les droits de l'enfant, le modèle de société dans lequel ils veulent vivre, dans lequel ils vont construire eux-mêmes leur propre vie.
C'est d'abord le silence de l'écoute, puisque c'est pour nous mettre à l'écoute des textes, de la musique aussi. Donc c'est ceux qui acceptent d'écouter, c'est-à-dire d'apprendre et de recevoir d'abord. Et puis c'est aussi un silence de résistance et de détermination. C'est montrer notre force, en fait, de rester silencieux, de ne pas se laisser entraîner par le bruit, les cris qui nous entourent.
Il suffit d'assister à ces rassemblements pour comprendre justement combien ce silence est parlant, paradoxalement. Le gouvernement a essayé de caricaturer la mobilisation de ces jeunes. Le gouvernement a essayé de ne parler que d'agiter l'extrême droite. Et les journalistes, quand ils viennent, s'attendent à voir cela. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des centaines et des centaines de jeunes assis avec une petite lumière en silence, dans la nuit, entouré de CRS lourdement armés, casqués, boucliers, matraques. Il y a comme un contraste saisissant.
Alors les premiers soirs, ça a été très tendu. Je pense qu'ils ont eu du mal à comprendre ce que représentait notre mouvement, qu'ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à une masse de jeunes qui restent pacifiques. Je pense aussi qu'ils devaient obéir à des ordres qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'il fallait faire. Mais les derniers soirs, ça s'est bien passé. Les CRS étaient là, mais nous ont laissé faire notre veillée en paix et nous nous sommes dispersés à minuit et demi, comme tous les soirs.
On voyait bien les CRS, les gendarmes très gênés, très embêtés, quand il faut évacuer de force ces jeunes. On ne peut pas les suspecter, on ne peut pas les caricaturer, on ne peut pas faire d'eux. Voilà, et on voit bien que ça embête beaucoup les forces de police et le gouvernement, parce que autant quand vous avez des excités qui balancent des choses sur les policiers, eh bien ça justifie la répression, et elle est légitime. Mais quand vous avez des jeunes assis en silence, avec une petite bougie simplement, comment justifier la répression? Comment les faire taire alors qu'ils se taisent déjà? Comment les caricaturer alors qu'ils ne font que rejoindre l'immensité des mouvements non violents qui ont pu exister dans l'histoire et que aujourd'hui on est tous en train d'exalter? C'est un vrai défi, je pense, envoyé à ceux qui nous gouvernent. Comment réprimer la non-violence? C'est compliqué quand même pour un gouvernement.
En fait, c'est étonnant, mais vous voyez, depuis quelques mois, peut-être un an ou deux, à Paris, je sens parmi les jeunes qui nous entourent un renouveau, un peu des consciences. C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, autour de moi, il y a beaucoup de jeunes, chrétiens ou non, qui veulent s'impliquer dans la vie de leur pays, qui réfléchissent. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme dans la continuité de quelque chose qui se préparait de manière souterraine en nous. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, dans notre jeunesse, il y a une aspiration à quelque chose d'autre que ce que proposent nos dirigeants.
Et puis quelques informations avant de vous quitter. Les religieux du sud-est asiatique veulent consacrer plus d'énergie et d'attention à la lutte contre le trafic d'êtres humains. L'engagement a été pris ces derniers jours lors du 15e congrès des supérieurs majeurs de la région, le SEMS, qui a réuni à Singapour 33 délégués représentant 24 congrégations religieuses. La rencontre se tient tous les 3 ans pour promouvoir une collaboration plus étroite entre les religieux au niveau de leur apostolat social. Le congrès de Singapour s'est focalisé sur le phénomène du trafic de personnes, un phénomène criminel en nette croissance dans le monde entier et en particulier sur le continent asiatique. Selon les organisations pour les droits de l'homme, ce problème concernerait au moins 27 millions de personnes dans le monde, en particulier des femmes et des enfants, alors que le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail parle d'au moins 20 900 000 victimes de l'esclavage. Une partie significative de ces nouveaux esclaves, 11 700 000, est répertoriée dans la région Asie-Pacifique. Un chiffre et une réalité qui ont poussé les responsables du Congrès à convaincre les religieux de la région à consacrer leurs travaux à ce thème particulièrement préoccupant. Et puis deux événements forts auront lieu ces prochains jours au Vatican dans le cadre de l'année de la foi. Les 27 et 28 avril prochains sera organisée la journée des confirmants et des confirmés. Près de 70 000 jeunes sont attendus en pèlerinage à Rome, accompagnés de leurs catéchistes. Dimanche 28 avril, au cours de la messe, place Saint-Pierre, le pape donnera le sacrement de confirmation à 44 d'entre eux. Et puis deuxième temps fort, le week-end suivant, les 4 et 5 mai, où seront organisées 2 journées pour célébrer la piété populaire. Une idée chère au pape, des catéchèses seront organisées dans plusieurs églises de Rome en fonction des groupes linguistiques. Des pèlerinages seront organisés sur la tombe de Saint-Pierre ainsi qu'une grande procession sur la Via della Conciliazione qui mène à la basilique vaticane. Des événements forts que vous pourrez retrouver dans nos différentes émissions ainsi que sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. N'oubliez pas également notre page Facebook Radio Vatican en français. Autant d'éléments pour continuer à vous faire vivre l'actualité internationale, celle de l'Église et celle du Vatican en langue française. Je vous donne rendez-vous demain, même jour, même heure, où que vous soyez.